Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse du 12 octobre 2020. Voici les titres de l'actualité. Après vous avoir parlé du temps, du pardon, de l'imagination, aujourd'hui nous allons parler de la colère. Qu'elle soit bonne, légitime ou démesurée, avec elle je peux blesser, sans elle je me laisse piétiner. Cette émotion dépasse parfois la mesure à cause de nos blessures ou par manque de contrôle de soi. Mais bien intégrée, elle peut devenir une expression de l'amour. C'est ce que nous dit le père Pascal Hyde dans L'Invisible numéro 4. Encore un enfant pour l'Église du Ciel, Carlo Acutis, jeune Italien mort en 2006 à l'âge de 15 ans, surnommé le saint patron des geeks, vient d'être béatifié ce samedi 10 octobre. Nous irons à sa rencontre avec le père Will Conquer, qui lui a consacré une biographie intitulée « Carlo Acutis, un geek au paradis » parue aux éditions Première Partie. L'article que je vais vous lire figure dans l'Homme Nouveau de ce mois-ci. Je vous lirai ensuite une prière que vous pourrez retrouver sur Alateia, ainsi que le message de sa propre mère, Antonia Salzano, qui pourrait intervenir en direct sur Radio Maria France, mais la date n'est pas encore confirmée. Culture chrétienne, nous allons retrouver le pape émérite Benoît XVI qui envisage la question de la mort et de l'au-delà. Nous reparlerons de son livre « Dernière conversation » paru en 2016 aux éditions Fayard. La conversation figure dans Alateia. Nous commençons avec la colère comme émotion vitale, selon le père Pascal Hyde, donc l'article figure dans L'Invisible numéro 4. Laissons-nous enseigner par la nature. Celle-ci a inventé l'agressivité pour protéger les animaux de leurs prédateurs. Il n'est pas conseillé de s'approcher même de la plus pacifique des vaches lorsqu'elle vient d'accoucher d'un veau. Même le monde végétal a inventé l'équivalent. Pas de rose sans épines. Ainsi, la colère apparaît comme une réaction naturelle face à une agression. Quand je me sens agressée, j'ai deux réactions spontanées à ma disposition. L'attaque ou la fuite, comme dit le physiologiste américain Walter Cannon. Ces comportements sont dictés par deux émotions, la peur et la colère. En général, nous avons davantage d'affinité avec l'une de ces attitudes. Pourtant, elles présentent toutes deux leurs avantages et leurs limites. Si vis-à-vis d'un voisin intrusif, une ferme menace peut être efficace, face à un chien agressif, la fuite est sans doute préférable. L'émotion est d'abord une information. Comme toute émotion, la colère n'est pas seulement naturelle. Elle est bonne. Au sens psychologique neutre. Pour deux raisons. L'émotion est d'abord une information. Le courroux nous signale une injustice, ou plutôt ce que nous ressentons comme une injustice. Souvent, lorsque je me sens bouillir, dit Émilie, cela signifie que j'ai besoin de me sentir respectée. L'émotion est aussi une motion, c'est-à-dire une énergie. Sans colère, la plaidoirie de l'avocat convaincra moins, et la semonce du parent ne rejoindra pas son enfant turbulent. Je ne me souviens que d'une colère de mon père, explique Hervé, 37 ans. J'étais âgée de 16 ans et j'avais manifestement dépassé les bornes. Il m'a pris par le revers de ma chemise et m'a collé au mur. J'ai senti sa force, plus encore intérieure que physique. Paradoxalement, de sentir la colère de mon père, cela m'a rassurée et permis de comprendre que j'étais allée trop loin. Si je ne sais pas détecter la présence ni déchiffrer le sens de la colère, je risque fort de ne pas me laisser respecter ou de la projeter contre un innocent. Les personnes qui ne repoussent pas à temps les agresseurs entrant dans leur espace de proximité se laissent plus facilement dominer. La colère est donc un affect vital. Pourtant souvent, elle nous dépasse et fait des dégâts. L'agressivité se transforme alors en violence. Comment les différencier? Le courroux mesuré répond à trois critères. Tout d'abord, son objet doit être conforme à la justice. Dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol, il est légitime qu'Aimable, le boulanger, soit en colère contre l'adultère notoire de sa femme. Ensuite, l'intention qui le dicte doit être droite. Tel est le cas d'Aimable, qui, en grondant Pomponnette, la chatte, désire seulement signifier sa souffrance face à la trahison du lien conjugal. Enfin, la réaction de l'irascible doit être proportionnée à l'agression. Faire des reproches à Pomponnette plutôt qu'à sa femme permet à Aimable d'adoucir ses paroles, qui, trop directes, deviendraient violentes. La violence est la colère qui a dépassé ses limites. Elle a deux sources, souvent étroitement entrelacées. La blessure involontaire et le péché coupable. La colère pécheresse est alors une colère démesurée, voulue. Si souvent hors piste, la colère doit-elle être dépassée? Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, nous dira l'Écriture dans le psaume 4, verset 5. Il s'agit donc non pas de la nier, mais de l'intégrer. C'est le propre de la vertu de douceur. Il n'y a pas à choisir entre Anakin Skywalker et Maître Yoda, par exemple, dans la Guerre des Étoiles. Plus encore en Dieu, la colère est une forme de l'amour. L'affirmation choque. Pourtant, si l'on sait que le Dieu du Nouveau Testament est amour, on oublie parfois ses colères. De même, Jésus, qui n'est qu'amour, a porté sur les pharisiens un regard de colère, qu'on pourra lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 3. Comment alors concilier amour et humeur? Lactance, un père de l'Église, a montré qu'un Dieu sans colère ni passion est en fait un Dieu païen. Mais le Dieu chrétien veut le bien. Or, on ne peut aimer le bien sans repousser son contraire, le mal. Un père qui dirait aimer son enfant mais ne refoulerait pas l'agresseur qui s'approcherait de lui serait un menteur. Guéri et purifié, la colère peut pleinement servir la cause de l'amour. Elle devient alors l'amour en livrée de combat. Voici donc 9 clés pour ajuster sa colère selon le père Pascal Hyde et en conclusion de cet article. Première clé, détecter les diverses couleurs de la colère. Il n'y a pas que les éclats de voix contre l'autre, il y a aussi les rancœurs silencieuses. Il y a les murmures intérieurs contre une institution. Il y a les agacements contre soi, les autopunitions, etc. Deuxième clé, se demander si sa colère est mesurée ou non. Regardez-vous de l'extérieur et demandez-vous, si une réaction juste est de 10, à combien évaluez-vous ce comportement? Troisième clé, prendre de la distance. Si vous doutez du bien fondé de la riposte bien salée qui vous brûle les lèvres, mieux vaut vous abstenir, réfléchir et parler une fois dégrisé. Quatrième clé, pratiquer la vertu contraire à la violence, la douceur. Et commencer le plus en amont, ainsi que le conseille un père du désert, il faut, s'il est possible, empêcher la colère de pénétrer jusqu'au cœur. Si elle y est déjà, faire en sorte qu'elle ne se manifeste pas sur le visage. Si elle s'y montre, garder sa langue pour essayer de l'en préserver. Si elle est déjà sur les lèvres, l'empêcher de passer dans les actes et veiller à l'éliminer le plus tôt possible de son cœur. Cinquième clé, exercer l'humilité. L'orgueil est souvent la racine de la colère. Sixième clé, se faire aider. Septième, prendre soin de son corps. Huitième, entrer dans un chemin de pardon. Et neuvième, savoir se mettre en colère pour une juste cause et de manière contrôlée. La douceur est un juste milieu entre dureté et mollesse. « Je n'ai jamais entendu mes parents élever la voix », dit un homme de 52 ans. « L'autre jour, pour la première fois de ma vie, je me suis fâché contre un voisin qui me traitait injustement de menteur. Cette colère mesurée me donne confiance en moi. » C'était les 9 clés pour ajuster sa colère avec le père Pascal Hyde. Si cet article vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans l'Invisible numéro 4. Carlo Acutis, désormais un geek bienheureux, donc qui vient d'être béatifié ce samedi 10 octobre. Le père Will Conker lui a consacré l'an dernier une biographie donc, qui s'intitule « Carlo Acutis, un geek au paradis » paru aux éditions Première Partie. Voici l'article avec le père Will Conker paru dans L'Homme Nouveau de ce mois-ci. Carlo Acutis est né avec Internet. Quel est son contexte familial? Voici ce que nous répond le père Will. Carlo ressemble aux jeunes de notre temps, avec aussi ce qu'il peut y avoir de plus triste. Il grandit dans un environnement où la religion est plus une culture, où les enfants font leur première communion comme tout le monde. Mais lui demande à faire sa première communion plus jeune. À partir du moment où il a reçu le corps du Christ, Carlo demande à aller à la messe tous les jours. Il grandit dans une classe sociale extrêmement élevée. Ses parents appartiennent à la haute société milanaise. Il est fils unique comme beaucoup d'enfants de notre époque et il avait tout pour être l'enfant roi matérialiste. Pourtant, dans une ville anonyme comme les Milan, Carlo tisse des liens personnels avec des gardiens d'immeubles, des passants qu'il croise sur le chemin de l'école, des employés de ses parents. Grâce à ces liens d'amitié, un des employés va demander le baptême. C'est là le cœur missionnaire de Carlo. Son témoignage de foi, il le fait d'abord chez lui. Aux rencontres de Communion et Libération, Carlo est présent avec ses parents et prend conscience de l'urgence de trouver les mots pour parler aux jeunes d'aujourd'hui. Il va avoir l'idée de créer une exposition à destination des jeunes afin de leur parler de l'Eucharistie. Il veut en parler en partant des miracles eucharistiques, ce qui n'était alors pas du tout à la mode. Carlo utilise Internet pour monter son exposition. Ce chef-d'œuvre de sa vie va lui prendre 2 ans, en passant toujours après son devoir d'État, faire ses devoirs d'école. 4 jours avant l'inauguration, il ressent des troubles, des malaises, des vomissements. Il est conduit à l'hôpital. Les médecins pensent d'abord à de la fatigue liée au stress et à la préparation de l'exposition. Les analyses de sang révèlent une leucémie. En 4 jours, la maladie a raison de lui. Son exposition va, malgré son absence, avoir un succès incroyable. Peut-on proposer comme modèle un jeune qui passait une bonne partie de son temps derrière les écrans ? Carlo nous montre que l'usage des technologies modernes de façon consciencieuse peut porter de bons fruits. Carlo joue avec ses amis. L'aspect social est important. Beaucoup de technologies qui se prétendent sociales aujourd'hui sont antisociales. Il a un usage missionnaire des nouvelles technologies. Il pose une question à laquelle nous devons tous répondre. Est-ce que les nouvelles technologies me rapprochent de Dieu ? Quel en est mon usage ? C'était l'article donc paru dans L'Homme Nouveau avec le père Will Conquer. Je vais vous lire maintenant une prière pour demander l'intercession de Carlo Acutis, tout jeune bienheureux. Ô Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné Carlo. Modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils, Jésus. Il a fait de l'Eucharistie sa route vers le ciel, le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée et vous en avez fait avec le rosaire un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez surtout les pauvres qu'il a aimés et sauvés. Moi aussi, par son intercession, je demande la grâce dont j'ai le plus besoin. Faites en sorte que notre joie s'accomplète, en plaçant Carlo parmi les bienheureux de votre sainte Église, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Et voici donc un message de sa mère, Antonia Salzano, pour conclure sur Carlo Acutis. Voici ce qu'elle nous dit. Carlo aimait beaucoup la France. La France, vous avez eu un rôle très important pour la chrétienté et pour tout le monde chrétien. Carlo va prier pour vous et je vous assure de mes prières. Je suis sûre que vous allez faire beaucoup de grandes choses. Voilà, chers auditeurs et auditrices, je pense que nous pouvons d'ores et déjà nous confier à l'intercession de Carlo Acutis, qui va déjà œuvrer pour beaucoup, beaucoup de jeunes et pour notre pays, la France. Je vous retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. À tout de suite.
Mortis, oh, 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 o
passons maintenant à la culture chrétienne avec le pape émérite Benoît XVI qui envisage la question de l'au-delà et qui se prépare petit à petit à la mort. Il nous a donné un livre fabuleux qui s'appelle « Dernière conversation » paru en 2016 aux éditions Fayard. La conversation figure dans « Aletheia » de ce mois-ci. Le pape émérite Benoît XVI est-il vraiment en fin de vie? Cette question revient régulièrement dans l'actualité alors qu'il est apparu quelque peu affaibli sur des photos, notamment lors de la visite qu'il a faite en Allemagne au chevet de son frère il y a quelques mois. Une chose est sûre, il se prépare à mourir comme il l'a lui-même affirmé dans le livre « Dernière conversation ». Dans le premier chapitre du livre qui s'intitule « Jour tranquille à Mater Ecclesiae », Peter Sivald, donc le journaliste avec qui il a écrit le livre, interroge le pape émérite sur sa vie monastique dans l'enclos de pierre, et notamment sur ses activités quotidiennes. Il aborde notamment la passion de Benoît XVI pour l'écriture et la prédication, puis il l'interroge. Est-ce que même un pape émérite a peur de la mort? Voici la réponse de Benoît XVI. Dans une certaine mesure, oui. Il y a d'abord la crainte d'être une charge pour autrui en raison d'une longue période d'invalidité. Pour moi, cela serait très attristant. C'est une chose que mon père a toujours redoutée, mais cette épreuve lui a été épargnée. Ensuite, bien que je pense en toute confiance que Dieu ne me rejettera pas, plus on s'approche de lui, plus on ressent avec force tout ce que l'on a bien fait. D'où le poids de la faute qui vous oppresse, même si la confiance de fond est toujours présente, évidemment. Si tout le monde se pose la question de l'au-delà, la réponse de Benoît XVI est particulièrement instructive. Il fait partie des plus grands théologiens des XXe et XXIe siècles et a consacré toute son existence à contempler et à explorer le mystère de Dieu. À la question « Qu'attendez-vous de la vie éternelle ?», le pape émérite distingue deux niveaux. Tout d'abord, le niveau le plus théologique. Il cite les paroles de saint Augustin qui sont pour lui d'un grand réconfort et une grande pensée. En commentant le psaume 104, cherche toujours sa face. Il dit « Ce toujours vaut pour l'éternité ». Dieu est si grand que nous ne finissons jamais de le connaître. Il est toujours nouveau. C'est un mouvement perpétuel, infini de nouvelles découvertes et de nouvelles joies. Pour lui, Benoît XVI, la vie éternelle est un désir de vie échappant à la mort, sans trop savoir ce vers quoi nous nous sentons poussés. L'éternité n'est pas une succession des jours du calendrier, mais quelque chose comme le moment rempli de satisfaction, dans lequel la totalité nous embrasse et dans lequel nous embrassons la totalité. Nous pouvons seulement chercher à penser que ce moment est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie. À ces réflexions théologiques auxquelles Joseph Ratzinger ne peut échapper sans renoncer à être lui-même, s'ajoute un niveau tout à fait humain. « Je me réjouis, dit-il à Peter Sivald, de revoir mes parents, mon frère et ma sœur, mes amis, et d'imaginer que tout sera de nouveau aussi beau que chez nous à la maison. » Cette approche familiale et amicale de l'au-delà a également chez Benoît XVI cette portée théologique, car pour lui la béatitude éternelle ne peut pas ne pas avoir un caractère collectif. Dans Spe Salvi, il reprend l'enseignement des pères de l'Église, actualisé par le père de Lubac, pour montrer que le salut a toujours été considéré comme une réalité communautaire. Au ciel, la rédemption rétablit l'unité dans une vie bienheureuse partagée entre tous. Ratzinger a toujours regretté que le monde moderne ait retiré la dimension métaphysique de la mort, en particulier dans le livre qu'il estime être le plus accompli, « La mort et l'au-delà » paru aux éditions Fayard en 2005. Comment se préparer alors au dernier passage? Pour Benoît XVI, là encore le parcours personnel de la préparation, du passage de la vie à la mort et de la mort à la vie intègre cette fameuse dimension communautaire. Je pense qu'il faut se préparer. Je ne veux pas dire qu'il y ait des actes précis à accomplir, mais qu'il faut vivre intérieurement, en sachant qu'on va devoir réussir un dernier examen devant Dieu. Que l'on va quitter ce monde et se retrouver devant lui et devant les saints, devant les amis et ceux qui ne sont pas des amis. Qu'il faut accepter la finitude de cette vie, admettre que l'on approche du moment où l'on se présentera devant la face de Dieu. L'essentiel n'est pas que je me le représente, mais que je vive dans la conscience que toute la vie est l'approche d'une rencontre. Voilà, chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet article paru dans Aletheia, Se préparer à la mort avec le pape émérite Benoît XVI. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, il est temps de conclure cette revue de presse du lundi 12 octobre 2020. Je vous ai parlé en premier de la colère comme émotion vitale, avec les conseils du père Pascal Hyde ainsi que 9 clés pour ajuster cette colère, paru dans l'Invisible numéro 4. Carlo Acutis, donc un geek bien heureux pour les jeunes, pour la France, pour le monde entier. Je vous ai lu un article paru dans L'Homme Nouveau avec le père Will Conquer qui lui avait consacré une biographie intitulée Carlo Acutis, un geek au paradis. Et je vous ai lu donc une prière pour demander l'intercession de Carlo Acutis ainsi que le message de sa mère Antonia qui nous fait comprendre que Carlo va intercéder pour la France. Culture chrétienne, comment le pape émérite Benoît XVI envisage la mort et la question de l'au-delà. Je vous ai reparlé un petit peu de son livre « Dernière conversation » paru en 2016 aux éditions Fayard. L'article peut être retrouvé dans Aletheia. Je vous retrouve avec joie lundi prochain.